Et là-dessus, on s'en va en Gaspésie. C'est là où vous êtes, Anne-Marie?
Oui.
Bonjour, Anne-Marie.
Bonjour.
Vous avez lu et beaucoup aimé, je pense, La capitale des rêves d'Heather O'Neill.
Oui, beaucoup, effectivement. C'est une brique, là. C'est quand même 394 pages.
Ah
C'est
oui, presque
lié à tout.
400 pages.
Ah ouais. Et c'est une très belle traduction de Dominique Fortier, qui, je pense, a traduit tous ses livres. Et la page couverture est illustrée par la fille de l'autrice, Arizona, qui est une BDiste et qui, au premier abord, quand on voit ça, on pense à un roman jeunesse. Une jeune fille qui court avec une oie, qui déploie ses ailes dans une forêt. Et puis, bon, ben, effectivement, ça a un lien quand même avec la littérature jeunesse parce que Heather O'Neill en lit beaucoup. C'est une autrice, romancière, nouvelliste, poète, scénariste, journaliste qui est née à Montréal, qui a ensuite été vivre avec sa mère pendant quelques années aux États-Unis pour revenir avec son père à Montréal et qui, bon, maintenant vit de son œuvre. Et elle a parfois des chroniques en littérature jeunesse à la radio, donc elle lit beaucoup de livres jeunesse. Et l'enfance est au cœur de ce livre-là. C'est un livre difficile à résumer parce qu'il y a tellement de choses qu'on y trouve, mais ça se passe dans un pays imaginaire qui s'appelle l'Élysée, qui fait penser à l'Ukraine, on peut penser à ça. Et l'héroïne, qui s'appelle Sophia, est la fille d'une illustre écrivaine qui s'appelle Clara Bottom, qui est là-bas, et c'est dans le texte, c'est pas moi qui l'invente, on dit que c'est la Simone de Beauvoir de l'Élysée. Donc, une femme très connue, qui a une parole qui porte, qui parle à la radio, qui publie, qui dénonce, qui finalement défend la liberté et qui est une féministe, évidemment. La petite, au début de l'histoire, elle a 14 ans. Et puis, bon, ben, elle a une relation difficile avec sa mère, dont elle comprend pas tout parce qu'elle est jeune encore. Puis sa mère, c'est une savante, on dit qu'elle a fait 7 doctorats, donc c'est une tête.
Rien de
Et
moins.
elle voit la guerre arriver, elle fait partie de la résistance et elle écrit un manuscrit pour que les gens sache ce qui se passe dans son pays. Donc, elle la met sur un train avec d'autres enfants qu'on va supposément protéger, mais qu'on comprend bien qu'ils vont être éliminés. Puis, dans sa valise, elle met le livre de contes préféré de sa fille Sophia. C'est Sophia le nom de la petite. C'est des contes, en fait. Et puis là, ben, elle a tout arraché les pages qui étaient dans le livre pour mettre à la place son manuscrit. Alors elle lui dit que tu as la grande responsabilité là, de traverser ça à la frontière pour que les gens sachent la vérité sur ce qui se passe dans notre pays. Elle dit que la première chose qu'on élimine quand il y a une guerre, c'est les artistes, les penseurs, les philosophes. Bon, alors elle dit que c'est important que ça se rende. Puis elle, la petite, quand elle rouvre sa valise, elle voit ça, conte des forêts de l'Élysée. Elle pense que sa mère a pensé à elle, mais non, quand elle voit à l'intérieur. Elle est un peu frustrée. Et là, elle ne veut pas aller dans ce train-là, mais elle va finir par y aller. Et au premier arrêt, ils font descendre les enfants. Et là, tout à coup, c'est des camions de l'armée qui viennent chercher les enfants, évidemment, pour les éliminer. Mais elle se sauve dans le bois. Et dans sa course, elle va perdre la valise qui contient ce fameux manuscrit. Puis là, ben, la quête du livre, c'est ça. Retrouver le manuscrit de sa mère, parce qu'elle dit que sans ça, sa mère va y en vouloir toute sa vie. Et en sortant de cette forêt, elle rencontre une petite fille qui est habillée pauvrement et qui garde avec elle une oie vivante. Puis elle appartient à une ferme, sans doute. Et là, bon, ben, elle va échanger ses vêtements chics de la capitale, là où elle habitait. Puis elle va prendre les vêtements de la fille et l'oie. Et cette oie-là, par hasard, parle et elle se définit comme une philosophe, une intellectuelle publique qui a un discours à faire à la capitale. Elle veut livrer un manifeste sur la littérature oralement parce qu'elle a ça dans sa tête. Et puis là,
Ouais.
ben, ensemble, elles vont essayer de trouver le fameux manuscrit. Puis elle, la petite, elle dit, c'est où ça, le marché noir? Je veux m'y rendre. Mais en fait, tout le roman est rempli de métaphores comme ça, vues par les yeux d'un enfant. Mais c'est raconté à la troisième personne, quelqu'un qui nous démontre comment la chose se passe. L'autrice, c'est clair, c'est une femme féministe qui dénonce, puis qui défend, puis qui explique des sujets, puis qui réussit un roman de 400 pages sur une affaire grave comme la guerre, l'abus des femmes, la trahison, mais tout ça d'une façon poétique qui fait que la pilule passe mieux. Que même on s'attache à des images fortes, On est arrêté dans notre lecture devant la facilité, le talent qu'elle a à tout intégrer, les métaphores, les odeurs, les coups. Beaucoup de références littéraires. On se dit, ah oui, qui est-ce qui a dit ça? Donc, c'est quel poète? Ah, c'est Baudelaire. Bon, évidemment, beaucoup d'allusions à des contes. La gardeuse d'oie, entre autres. Quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à elle. Je vous donne un exemple des métaphores qu'on y trouve. Elle dit que quand c'est la guerre, il y a des bruits qui se sont détachés de leur source. Elle dit, Sophia distinguait parfois des prières. Elles n'avaient pas été exaucées. Raison pourquoi elle flottait dans le vent comme des vieilles pages de journaux que personne ne lirait. Ça disait, entre autres, pitié, par pitié, ne me laissez pas mourir. Donc, elle entend des prières comme ça. Les arbres dans la forêt chuchotent les nouvelles qui se passent au pays. Elle dit à un moment donné, Sophia éteignit son cerveau comme une lampe et tomba dans un sommeil profond. Donc, tout le temps, on est ébahi par des images qui sont fortes. En tout cas, si on aime les contes, comme moi j'aime les contes et l'imaginaire, on est ravi. Alors, pour elle, ces femmes-là, ce qui est important à travers sa grand-mère, sa mère et Sophia, c'est la transmission, tout ce qui doit être connu. Et selon sa mère, c'est par l'écriture et la littérature que ce projet va prendre forme. Et c'est en effet ce qu'elle veut faire. Alors, c'est un livre qui se distingue vraiment par son style poétique. C'est une allégorie tout le temps au pays de la politique, mais où il y a des fées, des champignons lumineux, de la magie tout le temps. Il y a des drames. Vraiment, la petite, elle est naïve et elle va être trahie. Elle va se faire avoir, elle va se faire voler. Mais on sent que tout se construit autour des femmes. Puis, ce qu'elle comprend, c'est que sa mère, elle a voulu lui transmettre la force qu'elle a pour qu'elle traverse la guerre. Mais elle, elle dit toujours, ma mère, elle se venge de l'accouchement qui a été difficile à cause de ça, elle m'en veut. Puis, bon, elle a beaucoup de culpabilité dont elle va se défaire tranquillement à mesure que le roman avance. Alors, c'est vraiment un livre qui est plein de symbolique, qui fait référence à la guerre. On reconnaît des personnages. Oh, oui, la guerre est... Elle est créée par un pays qui ressemble à la Russie ou autre.
Et vous avez dit l'Ukraine en début de chronique?
Oui, c'est ça. Puis on sent qu'il y a dans ça, dans cette guerre-là, une lutte contre... qu'en fait, on veut tout effacer, ce qu'a été ce pays-là, la langue, la culture. Alors, on commence par détruire tous les édifices culturels pour qu'il ne reste plus rien, finalement, et que ça ne serve à rien de retourner là. Et je dirais que le message principal de tout ça, c'est que quand il arrive un drame comme ça, on peut se reconstruire différemment, ailleurs, avec d'autres outils que la langue qu'on a parlé, par exemple. Alors, elle dit que tout le temps, elle trouve sa mère énervante, je sais pas moi, égoïste, qui pense rien qu'à elle. Puis quand elle part avec le manuscrit, elle lui dit, c'est ça, ton écriture est plus importante que moi. Elle dit oui, bien sûr. Mais à la fin, on comprend que c'est pas ça du tout. À la fin, on est ébahi par la générosité de sa mère et combien c'est touchant. Je ne révélerai rien, mais ça vaut la peine de comprendre ce qui se passe et de ne pas juger tout de suite. Puis en lisant sur l'auteur que je ne connaissais pas, l'autrice qui a été traduite, tous ses livres ont été traduits, puis des grands succès, puis elle a gagné des prix, ben, j'ai compris que c'est un peu autobiographique ce qui est arrivé là-dedans. Parce que sa mère, effectivement, était une artiste.
La mère d'Heather O'Neill?
Oui, oui. Puis son père, comme dans l'histoire, la petite Sophia, son père est parti en Amérique. Puis lui, il est loin de la guerre, donc il est sain et sauf, mais il ne s'est pas occupé d'elle. Et dans cette histoire, dans son histoire personnelle, le père est un peu un père inconscient. On pourrait dire ça comme ça. Alors, c'est vraiment un très beau roman que je suggère à tous ceux qui aiment le conte ou à tous ceux qui ont envie peut-être d'un peu de lumière dans l'époque sombre que l'on vit.
Même si le propos semble très dramatique.
Oui, parce que même s'il y a des drames, puis qu'on est fâché des fois, puis on dit oh, « non, c'est pas vrai », il y a quelque chose à travers ça qui donne de la force au personnage et on comprend qu'ils se construisent. Puis elle passe de l'enfance à l'adolescence. Elle a 14 ans, donc elle comprend là, que son corps change et qu'elle devient une femme. Et puis là, elle va citer Simone de Beauvoir, « On ne naît pas femme, on le devient. » Bon, alors, c'est jamais dit que c'est Simone de Beauvoir qui a dit ça, mais on le comprend là, quand on lit, on On voit qu'elle dit, par exemple, un important poète a dit quelque chose, et puis là, elle cite, puis on reconnaît les citations dans le livre. Donc, il y a toute cette richesse de l'imaginaire, de la littérature, des contes, et de la magie que le décor peut inspirer à cet enfant-là qui est comme destiné à mourir, mais qui s'en sort finalement. Alors, c'est aussi à travers les chapitres, il y a des retours dans le passé. Puis on comprend qui était sa grand-mère, qu'est-ce qu'elle a vécu avec sa mère quand elle était jeune, qu'est-ce qu'était leur vie. Et ça nous permet de comprendre la richesse de la culture, tant chez sa mère, qui a une culture parce qu'elle a étudié, et sa grand-mère, qui a une culture qui tient plus de la tradition orale, du conte, des légendes. Et c'est tout à fait magnifique. Enfin, moi, j'ai adoré lire ce livre-là, et je le recommande à quiconque veut s'offrir un peu d'imaginaire par les temps qui courent et de lumière. Voilà.
Vous nous donnez vraiment envie, et ça me faisait penser aussi à la chanson de Leonard Cohen, là où il parle de lumière. C'est ainsi qu'entre la lumière, there is a crack in everything, that's how the light gets in.
Oui, et puis il y a des gens qui ont comparé ce roman-là au film dont j'oublie le titre, La Belle. Attends, c'était une histoire de guerre qui était racontée par un papa qui dit à son enfant.
Ah, La vie est belle, La vita est belle.
Oui, La vie est belle.
Oui, exact. Ah, quel film! Extraordinaire.
Ça me fait penser à ça parce que, justement, il y a un drame, mais à côté, il y a tellement d'imaginaire et de féerie, parce qu'il y a des fées partout là-dedans, que ça fait supporter la situation, je pourrais dire ça comme
très
ça.
Très inspirant. Et la page couverture fait aussi un peu penser à Alice au Pays des Merveilles, cette petite fille.
Oui, oui, effectivement, elle s'en va dans la forêt, puis cet oie-là fait penser à La Gardeuse d'oies, qui est un conte de Grimm. Où il y a justement des mauvais sorts qu'un enfant doit traverser à travers le temps. Alors oui, un très, très beau livre.
Une grande autrice, cette Heather O'Neill, qui est, soit dit en passant, pour ceux et celles qui aiment les petits potins, est la conjointe de Patrick Watson, un autre artiste grandiose.
D'accord.
La capitale des rêves, c'est le titre, publié aux éditions Alto. Une bonne brique, hein? 394 pages, il faut avoir quand même le temps.
Mais ça se dévore.
Ça se lit bien. Oui, ça se dévore. Traduit aussi, hein, c'est important de le dire de façon magistrale.
Très bien,
Dominique Fortier. Merci beaucoup, Anne-Marie.
À la semaine prochaine, au revoir.